On va parler des lowballers. Fait que les lowballers, surtout dans l'industrie de la construction, des entrepreneurs qui coupent leur prix pour réussir à avoir des jobs. Fait que moi, c'est Nicolas. Je suis ici avec Marjolaine. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, avec la situation économique actuellement, il y a beaucoup de lowballers. Donc, dans l'industrie, surtout de la construction, comme je disais, ça vous est sûrement déjà arrivé de faire une soumission pour un client. Finalement, le client vous rappelle, il vous dit qu'il a reçu une soumission à la moitié du prix des fois même encore moins cher que ça. Vous vous dites que c'est impossible, que l'entrepreneur ne doit pas faire d'argent. Puis, dans le fond, c'est ça, un lowballer. C'est quelqu'un qui coupe ses prix. Puis, il charge moins cher que tout le monde pour avoir la job. Donc, des fois, sa stratégie, c'est de charger moins cher pour se faire choisir. Puis, il va augmenter le prix en cours de route. Donc, pas nécessairement un bon moyen d'avoir des clients satisfaits. Puis, dans le fond, on a demandé à des entrepreneurs en construction quels sont les obstacles qui vous empêchent d'acquérir plus de contrats. Puis, la majorité ont répondu les lowballers. Donc, en ce moment, c'est un peu le fléau de l'industrie de la construction. Mais on va parler de pourquoi c'est pas une méthode rentable de faire une business. Puis, pourquoi vous devriez pas compétitionner sur le prix. Fait que, Marjo, si tu veux parler peut-être des plateformes de lead partagées.
Oui. Mais j'allais dire aussi que je pense que c'est encore pire présentement parce que ça a toujours eu lieu. Il y a toujours eu des entrepreneurs qui étaient prêts à charger moins cher que tout le monde. Mais je pense que présentement, avec la situation économique, les gens sont conscients que monsieur, madame, tout le monde ont moins d'argent. Fait que pour essayer justement d'avoir la job, ils sont prêts à pratiquement pas faire d'argent, là, dans le fond. Arriver avec des tarifs qui sont vraiment comme s'ils se faisaient payer à l'heure. Puis ça se voit dans les plateformes justement de lead partagé où monsieur, madame, tout le monde veulent trouver le moins cher. Fait qu'ils s'inscrivent sur une plateforme de lead partagé pour recevoir 5-6 soumissions. Puis là, à ce moment-là, simplement choisir le moins cher. Fait que si un entrepreneur qui a une entreprise, qui a des employés, qui a des bonnes conditions, il ne peut pas se permettre de charger des prix ridicules là, pour refaire, mettons, une cuisine ou un toit. Là. Vous ne pouvez pas charger 12 000 pour refaire un toit. Là. Ça ne fait aucun sens. Fait que lui, s'il soumissionne à son prix, bien, il a juste l'air d'être 50 fois plus cher que les autres entrepreneurs. Mm-hmm. Puis, c'est un peu le but de la plateforme, c'est de donner accès à monsieur, madame, tout le monde au moins cher. Fait que si vous vous retrouvez là-dessus puis espérez être payé un prix juste, ben c'est comme pas tout à fait la bonne plateforme pour vous.
Mm. Puis quand on parle de plateforme de lead partagé, si jamais il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi, on parle surtout des plateformes style soumission rénovation. Donc, le client, le gros bout du bâton dans des plateformes comme ça, parce que, dans le fond, il peut avoir une soumission par un minimum de 3 entrepreneurs, donc souvent plus. Donc, déjà à la base, quand tu es un entrepreneur, tu t'inscris sur une plateforme pour avoir des leads comme ça qui sont partagés à la base. Le but de la plateforme, c'est de compétitionner sur le prix parce que le client sait absolument rien sur toi. Fait qu'il va choisir nécessairement la soumission la moins chère. Donc, on vient un peu se couper d'essayer de gagner un contrat avec notre service, avec comment on se présente envers le client, avec d'autres choses que notre prix. Donc,
c'est de penser aussi, si vous magasiniez quelqu'un pour faire un service pour vous, fait que, mettons, pour refaire votre cours, comment vous magasineriez ça? Si vous allez sur une plateforme de lead partagé, c'est probablement parce que vous voudriez magasiner les prix et être capable de choisir le meilleur deal. Mais si vous voulez créer la cour que vous voulez puis que vous avez les moyens de payer pour avoir cette cour-là ou que minimalement vous avez recours à un financement ou quelque chose, vous allez prendre le temps de magasiner en ligne. Vous allez voir des images Pinterest, vous allez aller voir sur les sites des entrepreneurs est-ce qu'ils sont capables de faire des réalisations similaires, quel genre de projet ils ont fait. Vous allez regarder un peu leurs médias sociaux puis voir ça ressemble à quoi, est-ce que c'est le genre de cours que je veux. Puis là, vous allez communiquer avec eux puis espérer un peu que ça confirme que c'est le genre d'équipe avec qui vous voulez travailler ou minimalement le genre d'entreprise que vous voulez avoir dans votre cours. Tandis que des services de lead partagés, les gens ne vont même pas voir le site Internet là, de l'entrepreneur. Vraiment, ils attendent la soumission. Puis bon, il y en a un autre qui est passé. Puis vous êtes plus cher, mais comme à la revoyure. Là.
Une petite pause du podcast pour vous dire merci beaucoup de nous écouter. Allez nous follow, allez nous donner une note 5 étoiles sur Spotify. On n'a aucune publicité pendant le podcast, donc c'est vraiment la façon que vous pouvez faire pour nous aider si vous aimez le contenu. Donc, de retour au podcast. Sur quoi on veut se faire choisir au lieu de notre prix? Comment on fait ça? Comment on réussit à se faire choisir pour autre chose que notre prix?
Ben, sur une plateforme de lead partagé, je ne suis pas certaine que c'est vraiment possible. Si c'est la seule stratégie qu'on a en place pour avoir des demandes de soumission, je dirais qu'à la base, dès que la personne du lead, du service de lead partagé, dès qu'on est capable de rentrer en contact avec le client, ça serait de voir s'il n'y a pas autre chose qu'il cherche, comme qu'est-ce qui est le plus important pour vous, madame, dans un entrepreneur, puis peut-être essayer de lui vendre un service qui va être d'une qualité supérieure ou un écoute ou un accès justement à l'entrepreneur, parce que d'essayer de vous positionner comme le plus cher, vous ne l'aurez pas la job si vous avez une entreprise. Mais si vous êtes capable de dire, moi, madame, je ne serai pas le plus cheap, mais si ça vous intéresse d'engager une entreprise de qualité qui est fière de ses employés puis vous voulez avoir un bon service, ben à ce moment-là, ça va me faire plaisir de venir faire une soumission parce que je sais que mon entreprise aurait beaucoup à vous offrir pour réaliser votre cours. Quelque chose comme ça. Ça peut être comme la stratégie de pivot pour essayer de s'en sortir dans une stratégie de lead partagé.
Puis on le voit un peu avec les entreprises qui sont des experts dans leur domaine. Fait que si on pense à des grosses entreprises après Sinis, par exemple, des entreprises qui sont des experts puis sont connues de tous. Donc, si vous pensez à ceux qui ont des annonces à télé puis à radio, par exemple, c'est vraiment pas les moins chers. Donc, c'est souvent...
On n'a-tu pas le droit de nommer Calinette?
On peut nommer Calinette, par exemple. Ça ne sera pas nécessairement les moins chers, tu sais, mais ça va. Tu sais qu'ils ont une bonne réputation, que leur réputation est importante pour eux, fait qu'ils ne vont pas te faire une job de merde, puis après ça, tu n'entends plus parler d'eux ou ils font faillite, tu sais. Fait que tu sais un peu plus qu'est-ce que tu as. Fait que moi, j'avais une petite histoire là, avec ton beau-frère, tu veux-tu la raconter?
Ouais, dans le fond, mon beau-frère, Matt, il devait refaire son toit cet été. Fait que c'est quand même cher un toit, là. Je veux dire, on n'a pas 50 ans, là. Un toit, c'est cher. Puis il s'est fait venir 3 ou 4 entrepreneurs là, qui ont demandé, qui ont magasiné pour avoir des soumissions. Puis 3 sur 4, ils ont juste laissé la soumission dans sa boîte aux lettres quand il n'était pas là. Il ne les a jamais rencontrés. Fait que tu vois juste le papier avec le prix. Puis il y en a un qui a pris le temps de prendre un rendez-vous à un moment qui était là. Il s'est présenté, il a donné des conseils un peu. Il a dit, écoute, j'ai remarqué que tes gouttières étaient vraiment maganées ou crottées ou whatever. Je vais te les arranger. Puis là, écoute, telle chose. Fait que, il a commencé à vraiment créer une relation de confiance, positionné comme un expert. Puis honnêtement, ce que mon beau-frère disait, c'était pas le moins cher, mais ça... définitivement avec eux que je voulais travailler. Tu sais, c'était pas une question dans sa tête, c'était avec eux qu'il voulait travailler. Puis sinon, les autres... pourquoi ils voudraient travailler avec eux? C'est juste un prix. Le nom, ça change absolument rien pour lui. Là. Il n'y a pas de raison là, de faire ça. Fait que, t'sais, c'est quoi l'effort de plus de justement se présenter, serrer la main, donner un peu de valeur, puis vous positionner là, comme le choix évident pour votre client?
Il y en a peut-être qui vont répondre à ça, qu'ils ont trop de soumissions, ils n'ont pas le temps d'aller rencontrer le client. Peut-être que, je sais pas ce que tu en penses, une solution à ça, ça serait peut-être de trier un peu au téléphone avant d'aller faire la soumission si le client il fit un peu avec votre compagnie. S'il veut juste négocier sur le prix, est-ce que tu vas aller perdre ton temps là? Donc, il y aurait peut-être des petites questions à poser au client avant de se déplacer.
Définitivement, des questions à poser, c'est certain, ou des préqualifications, ou déjà dans les communications sur le site Internet, si vous vous positionnez comme l'expert, ben déjà le client qui va rentrer en communication avec vous ne va pas s'attendre à avoir à négocier sur un prix. Vous savez que vous mettez, mettons, des intervalles de prix sur votre site, fait que le client est comme qualifié parce qu'il connaît un peu la valeur du projet. Mais je pense que c'est aussi les gars qui font... 15, 20, 30 soumissions par jour, là, tu sais, qui font le plus vite possible. Ils ont aussi dans les plus bas taux de closing, là. Souvent, ceux qu'on rencontre qui font 10 soumissions par jour sont en bas de 10 % de closing rate. Fait que dans le fond, ils perdent leur temps, là. Fait que si vous n'êtes pas capable de bien les faire puis que vous n'êtes pas en moyen d'engager des vendeurs ou des représentants ou former d'autres personnes de votre équipe, faites-en moins, mais closez plus. Vous allez arrêter de perdre votre temps puis vous allez faire plus d'argent.
Ça revient un peu comme on parlait au lead partagé. Tu sais, si tu soumissionnes toujours sur des jobs qu'il y a 5 autres entrepreneurs qui soumissionnent, c'est sûr que ton taux de closing va être plus bas. Par contre, si tu éduques tes clients, tu as une image d'expert, puis les gens peuvent déjà un peu regarder ce que tu fais, la qualité de ton travail, peut-être avoir regardé des vidéos sur ton site, un peu de l'équipe ressemble à quoi, comment tu travailles, ben il va peut-être t'appeler en premier, puis attendre ta soumission avant d'aller sur soumission rénovation ou avant de faire appel à plein d'autres contracteurs. Fait qu'à ce moment-là, tu peux juste compétitionner contre toi-même, pratiquement, là. Donc, si tu es capable de faire bonne image, tu peux un peu, si tu veux, enlever la compétition.
Bon, on parlait de Calinette, là, tantôt, là. Les gens qui appellent Calinette, ils n'en ont pas appelé d'autres, là. Mm-hmm. Ils disent, on a eu un dégât d'eau, fuck, on appelle Calinette. Mm-hmm. C'est pas mal ça. Puis c'est ça leur annonce aussi, là. C'est des appelés.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si on prend en parler un autre moment de la publicité, mais justement, c'est peut-être un moyen de te démarquer un peu de la foule, là. C'est sûr qu'on parle de publicité à télé puis à radio. Il faut avoir un minimum d'envergure pour considérer ça. Mais bon, on en parlera un autre moment, là.